Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Hervé Le Troc, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cet éclairage sur la modélisation du climat, les conséquences du changement climatique, les questions de l'effet de serre. Vous êtes depuis peu membre de l'Académie des sciences dans la section sciences de l'univers. Vous travaillez dans le domaine de la climatologie, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore compris. Vous êtes professeur de mécanique à l'École Polytechnique.
C'est exact, oui.
Et également, vous dirigez le laboratoire de météorologie dynamique, qui est donc, vous me le précisiez avant de commencer cette émission, qui est une unité mixte entre le CNRS, l'École Polytechnique, l'ENS, l'École Normale Supérieure, donc, et l'Université Pierre et Marie Curie. Et vos travaux portent sur donc la modélisation numérique du système climatique, ainsi que la compréhension des perturbations radiatives du climat, en particulier le rôle de l'effet de serre additionnel lié aux activités humaines. Alors vous allez pouvoir nous aider à comprendre un peu mieux l'intitulé de vos travaux, parce que ça peut, même si on comprend certains mots, l'ensemble n'est pas forcément très parlant. Donc tout d'abord, la modélisation du climat. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire en quoi cela consiste, même si nous, quand nous regardons la grille météo à la télévision, c'est ce que l'on peut voir. En quoi ça consiste la modélisation du climat, Hervé Le Troc ?
En fait, la modélisation du climat, c'est la tentative d'essayer de recréer le système climatique à partir des lois fondamentales de la physique. Donc, d'une certaine manière, c'est une préoccupation qui est inverse de la préoccupation la plus courante des scientifiques. Très souvent, dans le domaine de la science, on observe des phénomènes compliqués et on essaie de ramener ces phénomènes compliqués à quelques lois simples.
Donc, à travers des équations, pouvoir prédire, en quelque sorte.
Voilà. Nous, ce qu'on cherche à faire depuis une trentaine d'années, à peu près, depuis qu'on a des ordinateurs qui sont suffisamment puissants, c'est le contraire. C'est-à-dire, à partir des lois simples, recréer la complexité des systèmes naturels. Donc, essayer à partir des lois de la mécanique, essentiellement, de recréer les régimes de vent à l'échelle de la planète, les régimes de courant océanique, et puis voir comment tout ça fonctionne et comment tout ça peut être ensuite modifié par exemple l'effet de serre ou la déforestation.
Alors avec vous, nous allons pouvoir donc parler de votre laboratoire que vous dirigez, donc le laboratoire de météorologie dynamique. Nous pourrons également parler du GIEC, le GIEC, qui est un groupe, rappelez-moi l'intitulé exact.
Alors ça veut dire groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, et c'est en fait un groupe d'expertise, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un point des connaissances. Donc le GIEC ne fait pas de recherche, mais tous les 5 ou 6 ans, pour le compte du programme Environnement des Nations Unies, fait un point sur l'état des connaissances dans le domaine du climat.
Vous partagez vos connaissances ?
Voilà, donc on essaie de produire un document qui soit l'état du consensus ou des dissensus, quand il y en a, mais l'état du consensus scientifique sur ce problème-là.
Alors, revenons au laboratoire de météorologie dynamique, qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon Laplace.
Oui, alors ce qu'on appelle météodynamique, c'est en fait tout ce qui est lié au mouvement de l'atmosphère. Le mot dynamique traduit le fait qu'on regarde l'atmosphère non plus comme on faisait dans l'aéronomie sous l'angle de sa composition, mais vraiment sous composition chimique, mais surtout sous l'angle de son mouvement. L'atmosphère est un système très, très rapide, les masses d'air se déplacent très vite sur la planète et qui met en contact, en fait, tous les éléments du système climatique, l'océan, les continents. L'atmosphère est un vecteur.
Mais alors, actuellement, les connaissances, justement, dans ce domaine, elles sont très récentes et il y reste encore des choses à découvrir ?
Oui, en fait, le système environnemental a été, je dirais, redécouvert, reobservé à partir du moment où on a pu le considérer depuis l'espace. Donc, la révolution la plus forte qu'on ait eue dans notre vision du monde, c'est celle de la recherche spatiale. D'un coup, on a vu l'écoulement atmosphérique comme un tout, depuis l'espace, avec toute la complexité des circulations qu'on avait appréhendées depuis le sol, mais de manière très incomplète, très insuffisante. Donc on a, depuis 20 ou 30 ans, des objets d'études beaucoup plus nombreux, finalement, parce que le système qu'on croyait connaître, en fait, on ne le connaissait pas si bien que ça. On l'a vu de manière nouvelle depuis l'espace.
Alors jusqu'à présent, en fait, quand nous écoutions la radio à cette époque-là, pour connaître le temps du lendemain ou du surlendemain, sur quoi étaient basées alors ces prévisions météo ?
Il y a un réseau d'observations météorologiques qui est un réseau qui a été établi dans courant du 19e siècle. L'idée même de la prévision météorologique est née pendant la guerre de Crimée, donc sous Napoléon III. Il y a la flotte française qui était en mer Noire qui a été détruite par une tempête. Et la tempête, on l'a vu se propager tout au long de l'Europe. Et à cette occasion, on a eu l'idée qu'avec le télégraphe qui commençait à exister, on aurait pu prévenir. Donc, donc c'est Le Verrier, qui était un astronome connu pour la découverte de Neptune, que Napoléon III a chargé de mettre en place un réseau d'observation météorologique qui a été l'ébauche de la météorologie nationale et puis en fait des grands réseaux internationaux. Et donc, ça fait maintenant un siècle et demi à peu près qu'on a ces réseaux d'observation au sol. Ce qui est nouveau avec les satellites et avec toute la révolution qu'a apporté la recherche spatiale dans les dernières décennies, c'est une densification des mesures absolument considérable, en particulier sur les océans. Sur les océans, on n'avait que quelques bateaux. Là, maintenant, on commence à avoir des mesures très systématiques, des vents en surface, des nuages, tout un ensemble de données qu'on peut prendre en compte.
Vous allez pouvoir nous expliquer maintenant plus en détail quels sont les facteurs qui vont jouer sur le climat.
Alors, je crois que ce qui est important, c'est de bien différencier ce qu'on appelle météorologie. Donc, la météorologie, c'est la prévision exacte, donc localisée, datée d'événements, mais ça n'est possible qu'à une toute petite échelle de temps, jusqu'à une dizaine de jours à peu près. Et encore, cette dizaine de jours représente un horizon qu'on atteint rarement. Et puis, il y a l'étude du climat. Alors là, c'est une étude statistique. Au-delà de 10 jours, on sort du domaine des choses qui sont prévisibles événement par événement, mais on sait que on a malgré tout des régimes de temps, des régimes climatiques. Et ces régimes évoluent d'une manière qu'on va pouvoir prévoir. Alors, par exemple, l'exemple le plus simple de changement climatique, c'est le changement saisonnier.
C'est les saisons, oui.
C'est les saisons, mais derrière les saisons, on a tout un ensemble de changements climatiques qui sont plus complexes à mettre en évidence, à prévoir, qui peuvent être liés non pas au mouvement simple de la Terre autour du Soleil, mais par exemple au gaz à effet de serre, à la déforestation, à tout un ensemble de causes qui sont d'un ordre plus fin et souvent aussi liées aux activités humaines.
À quoi sont dues les instabilités en fait, qui font que au-delà de 10 jours pour les prévisions météorologiques, comme vous venez bien donc de différencier la météorologie du climat, à quoi sont dues ces instabilités qui font qu'au-delà de 10 jours, on est impossible d'avoir une idée du temps qu'il va faire au-delà de 10 jours.
En fait, c'est le temps de croissance des petites perturbations dans le système atmosphérique. Quand vous regardez une carte météo, d'une part, on voit très clairement des grandes échelles, donc l'échelle des anticyclones, des dépressions ou des grandes cellules tropicales comme les grands régimes de mousson par exemple. Et c'est en fait le signal qu'on peut chercher à prévoir, c'est cette grande échelle atmosphérique. Maintenant, si vous regardez aussi une carte ou une image satellitaire, vous verrez que vous avez des petites échelles, donc tout un tas de petites perturbations atmosphériques. Et ces petites perturbations grossissent au fil des jours et viennent perturber le système de grande échelle. Donc elles vont faire que la grande échelle atmosphérique, qui est le signal dominant, hein, chez nous il fait beau, il fait mauvais selon qu'on est dans un système d'anticyclone ou de dépression, n'est prévisible que tant qu'il n'a pas été perturbé fortement par toutes ces petites échelles un peu aléatoires. Et donc l'horizon pour ce brouillage du signal, si vous voulez, c'est quelque chose comme une semaine, 10 jours, c'est pas une limite fixe, mais c'est l'horizon qu'on a du mal à dépasser.
Mais alors certains éléments jouent, les océans, les nuages, les vents, tout ça, ce sont des éléments qui vont jouer.
Oui, alors vous avez en fait, au-delà de 10 jours, un système qui est quand même largement guidé par le hasard, mais le hasard plus d'autres paramètres. C'est en fonction de ces autres paramètres qu'on peut avoir une capacité à prévoir malgré tout une partie des choses, de faire des prévisions qui vont être d'ordre statistique. Le système qui a la mémoire la plus longue et probablement la plus prévisible, c'est effectivement l'océan. L'océan contient des masses d'eau chaudes, donc qui mettent beaucoup de temps à se réchauffer, aussi beaucoup de temps à se refroidir, donc il y a une inertie très grande qui apporte au système climatique une certaine prévisibilité. Mais vous avez d'autres systèmes, les grands glaciers, c'est aussi des systèmes qui ont une mémoire très longue, tout ce qui est hydrologie continentale, donc les nappes phréatiques par exemple, ou même les nappes plus superficielles, sont des nappes qui vont contenir de l'eau en fonction des événements météorologiques passés, mais qui vont faire une statistique, qui vont construire une statistique de ces événements, qui vont intégrer une statistique de ces événements, et puis avoir un retour sur le système atmosphérique.
Donc vos travaux portent sur la modélisation numérique, on en a parlé un peu, également portent sur les perturbations radiatives. radiative. Est-ce que c'est en rapport avec
en fait, c'est,
le soleil?
Oui, c'est en rapport avec le mécanisme principal de chauffage du système climatique, qui est enfin, toute l'énergie qui met en route l'atmosphère et l'océan vient d'une part du soleil et d'autre part de la rotation de la Terre. On oublie souvent ce deuxième terme. Le fait que la Terre tourne, cette inertie joue aussi de manière très forte sur la manière dont se développent les circulations atmosphériques et océaniques. Mais donc le soleil est un moteur extrêmement important et un vecteur d'énergie pour le système climatique qui est essentiel. Et là, la Terre gère un échange, elle reçoit l'énergie du soleil et elle émet en compensation un rayonnement infrarouge. Et c'est cet équilibre entre les deux qui est déterminant de ce qu'on appelle le climat.
Une petite question qui me vient à l'esprit. Imaginons que nous puissions vivre sans soleil. Et justement, quel serait le climat alors s'il n'y avait pas de soleil, puisque notre climat dépend essentiellement du soleil?
On aurait un astre extrêmement froid, glacé. Qui aurait,
mais au niveau, il n'y aurait plus de pluie, il n'y aurait plus de marée, il n'y aurait plus... Qu'est-ce qu'il n'y aurait plus?
Oui, en fait, le fait qu'on ait une planète où l'eau est disponible sous les trois phases, vapeur, liquide et solide, c'est déjà une sorte de petit miracle qui rend la Terre très singulière par rapport déjà aux planètes qui l'environnent. Sans soleil, on aurait une planète avec essentiellement de la glace. Alors, glace d'eau peut-être, glace d'azote, et probablement une atmosphère beaucoup plus ténue, puisque beaucoup de choses auraient été condensées à la surface de la planète.
Mais il n'y aurait plus forcément de courant chaud, par exemple, au sein même des océans.
Voilà. Ça reste un jeu un petit peu théorique, parce que sans soleil, il n'y aurait pas eu non plus les planètes qui se sont accrochées autour du soleil. Mais effectivement, notre planète est singulière parce qu'on a un océan sous forme liquide qui bouge, qui fait que... Et puis on a une atmosphère aussi qui est relativement épaisse et qui transporte beaucoup d'énergie, dans laquelle ces transports sont facilités par la capacité de l'eau à se condenser. Donc tout ça, c'est un bijou d'équilibre qui n'est possible que dans des conditions très déterminées. Et puis si on était loin de ces conditions, ce serait absolument impossible.
Alors remettons le soleil à sa place. Vous parliez effectivement de l'énergie. Nous avons les rayons qui vont traverser la couche d'ozone, c'est ça? Après, les rayons vont être réfléchis, mais une certaine partie va rester dans l'atmosphère.
Oui, le rayonnement qui vient du soleil est utilisé en partie pour chauffer l'atmosphère. Alors une grosse partie effectivement de cette absorption du rayonnement solaire se fait dans ce qu'on appelle la stratosphère par absorption au travers de la couche d'ozone. Donc c'est l'ozone qui est en altitude qui absorbe une partie du rayonnement solaire. Et donc quand on dit absorption, ça veut dire chauffage. Il y a une partie qui est renvoyée vers l'espace directement, donc le bleu du ciel.
Qui est réfléchi.
Donc le bleu du ciel, c'est le symptôme d'une partie du rayonnement qui s'en va vers l'espace. Les nuages, eux, réfléchissent indépendamment de la longueur d'onde, c'est pour ça qu'ils sont blancs, on les voit tout blancs. Et puis le sol renvoie lui aussi du rayonnement vers l'espace.
Mais il ne renvoie pas tout, il en renvoie une partie.
C'est vrai pour l'atmosphère et c'est vrai pour le sol, il n'y a qu'une partie qui réfléchit. Ce qui n'est pas réfléchi sert à chauffer le système climatique. Donc en gros, je dis qu'il y avait 20% qui servait à chauffer l'atmosphère, 30% est réfléchi et les 50% qui restent servent à chauffer le sol, qu'il s'agisse du sol continental ou des océans.
À quel moment ça va jouer dans ce qu'on appelle les fameux gaz à effet de serre?
Alors les gaz à effet de serre, c'est un processus qui s'ajoute à ça et qui en fait n'agit pas directement sur le rayonnement solaire.
Il ne dépend pas directement?
Donc vous avez un système de chauffage qui est lié au rayonnement solaire et puis vous avez ensuite un système de refroidissement. Si on était toujours en train de chauffer le système climatique, ben, la température serait en train de croître. Donc vous avez un système régulateur qui fait qu'on a un équilibre et que la température en gros est constante depuis des milliards d'années. Et donc ce système de refroidissement, c'est de l'émission de rayonnement infrarouge vers l'espace. Et ce qui se produit sur la planète Terre, c'est que cette émission se fait pas facilement. Les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui sont en présence très ténue, hein, c'est moins d'un pour cent de la masse de l'atmosphère, donc essentiellement la vapeur d'eau, le CO2, le méthane, et ces gaz empêche la planète de se refroidir facilement. L'émission de rayonnement infrarouge par la surface est arrêtée, absorbée en partie, et puis réémise, mais dans une proportion moindre, par ces gaz à effet de serre. Donc on peut voir ça comme une espèce de couverture qui empêche la planète de se refroidir facilement, donc qui garde la chaleur près de la surface.
Alors on marque une courte pause, Hervé Le Trott, et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler de ce gaz à effet de serre. A tout de suite.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa. num doce balanço o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Notre éclairage en compagnie d'Hervé Le Treut, académicien des sciences dans la section des sciences de l'univers. Hervé Le Treut, avec vous, on vient de se quitter sur les gaz à effet de serre. Alors, ces gaz à effet de serre, vous venez nous l'expliquer, sont naturels à la base. Le grand public connaît les gaz à effet de serre avec les questions de pollution, les pollutions atmosphériques. Alors, quel est le rapport en fait? Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le rapport entre la pollution des grandes industries, pollution industrielle, et les gaz à effet de serre?
Alors, ce qu'on appelle pollution, c'est un terme très générique. Je pense qu'il faut effectivement distinguer entre une pollution qui va affecter ces gaz à effet de serre. Alors, les gaz à effet de serre, c'est des gaz qui jouent un rôle déterminant sur le climat de la planète, puisque moins d'1% de la masse de l'atmosphère rend la planète habitable. Sans les gaz à effet de serre, la température de la planète serait de moins 18 degrés Celsius.
Donc au départ, c'est quand même très utile.
Donc les gaz à
effet
de serre...
On a une image vraiment négative des gaz à effet de serre, mais c'est pas le cas.
Non, les gaz à effet de serre, l'effet de serre, c'est ce qui rend la planète habitable. Alors ensuite, c'est aussi ce qui régule finement le degré de confort qu'on peut avoir sur cette planète. C'est-à-dire qu'on a un système de contrôle très fin du climat de la planète et on comprend que, s'agissant d'une portion aussi ténue de l'atmosphère, les activités humaines vont pouvoir agir sur ces gaz. Maintenant, il faut faire attention que quand on parle de pollution, on parle souvent d'un autre problème qui est celui de la pollution urbaine et donc de gaz qui sont là présents encore en quantité encore plus faible, mais qui sont toxiques. Et de manière très grossière, on peut considérer ces deux problèmes comme des problèmes séparés. Vous avez d'une part des gaz qui sont sans effet sur la santé humaine, qui ont au contraire peu d'activité chimique, on peut parler de gaz à chimie lente, mais qui vont rester très longtemps dans l'atmosphère. Les gaz qu'on appelle gaz à effet de serre restent dans l'atmosphère une dizaine d'années, une centaine d'années, et vont petit à petit modifier le climat de la planète. Et puis vous avez des gaz qui au contraire ont un cycle rapide, parce qu'ils sont agressifs chimiquement et sont justement toxiques aussi. et qui reste dans l'atmosphère quelques jours. Mais donc l'ozone, un certain nombre d'oxydes d'azote sont des gaz qui vont provoquer des problèmes pour les asthmatiques ou pour les personnes âgées. Et qui, donc, une classe de problèmes assez différente parce que ce ne sont pas des effets durables, ce sont des effets au contraire assez immédiats. Les conséquences sont différentes, les moyens à mettre en œuvre aussi pour se protéger de ces deux types de problèmes sont relativement différents aussi.
Puisque la question derrière tout ça, c'est le réchauffement de la Terre. Est-ce que, oui ou non, ces gaz à effet de serre provoquent un réel réchauffement de la Terre? Est-ce que c'est nuisible pour notre vie future?
Il y a, je pense, là-dessus aucun doute. L'effet de serre, c'est un processus bien compris, qui joue au premier ordre pour contrôler le climat de la planète. Et je crois qu'il y a très peu de doute sur le fait que si on injecte dans l'atmosphère des quantités de gaz à effet de serre nouvelles qui perturbent le climat qu'on a connu depuis plusieurs milliers d'années sur la planète, on va effectivement avoir une température globale de la planète qui va être plus chaude de quelques degrés. Et quelques degrés, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les derniers millénaires. Bon, là, il y a aussi à faire attention aux échelles de temps. Quand on parle du climat, on parle d'un système qui, effectivement, à l'échelle des centaines de milliers d'années, fluctue sous l'effet de causes astronomiques, sous l'effet des dizaines de millions d'années, fluctue aussi sous l'effet de causes plus géologiques avec la dérive des continents. Mais depuis 5000 ans, à peu près, on est dans un climat qui a été très stable. Et l'apport de gaz à effet de serre perturbe cette condition très stable dans laquelle on a développé nos civilisations.
Mais justement, vous parlez d'échelle de temps. Certains de vos confrères scientifiques disent que finalement, nous sommes dans une période où nous allons peut-être avoir un climat beaucoup plus chaud, puisqu'il y a eu une désert où c'était des glaciers un peu partout. Là, c'est normal finalement. Et remettent un peu en cause cette vision alarmiste qu'on peut avoir du réchauffement de la planète et de toutes les conséquences que ça peut avoir. En fait, c'est le processus naturel de cycle, mais de cycle à une amplitude très longue.
Alors, les cycles naturels existent, mais ils se sont développés justement à des échelles de temps extrêmement longues. Le fait que ce soit naturel ne va pas dire que ce soit inoffensif. Les grandes fluctuations climatiques se sont accompagnées d'extinctions d'espèces, de modifications souvent. Là, ce qu'on est en train de souvent très drastique de notre environnement, même aux échelles de temps historiques, on peut voir que les modifications du climat qui là sont faibles par rapport à tout ce dont on vient de parler. En gros, le climat sur les derniers milliers d'années a été relativement stable, mais les perturbations qu'on a eues malgré tout ont été suffisantes pour entraîner des épidémies, des conséquences très fortes en termes de mortalité humaine. Donc, bien sûr, le climat fluctue naturellement, mais ces fluctuations naturelles ne veulent pas dire que c'est quelque chose qui est nécessairement bénéfique, auquel on est insensible. Et là, ce que l'on va faire, c'est une perturbation d'ordre supérieur par rapport à tout ce qu'on a connu dans les 5 ou 10 000 dernières années. C'est-à-dire que modifier le climat de quelques degrés comme on s'apprête à le faire, ça nous renvoie, en termes d'amplitude des perturbations, à ce qui a pu accompagner le passage d'un ère glaciaire à un ère interglaciaire. C'est-à-dire qu'entre le climat de l'ère glaciaire et le climat actuel, il y a 5 degrés d'écart à peu près. Et le réchauffement futur qu'on attend, c'est quelques degrés aussi.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, actuellement, vous qui travaillez sur la modélisation du climat, justement, avec ces gaz à effet de serre en trop grande quantité, ça joue actuellement sur notre météo du jour?
Je crois qu'il faut très attention justement à bien distinguer les échelles de temps. Le changement climatique, c'est quelque chose qui va progressivement perturber le système climatique dans lequel on vit. Et cette perturbation va se traduire par des crises, donc des sécheresses inattendues et plus prolongées, des tempêtes, des cyclones. Mais chacune de ces crises individuellement n'est pas forcément toujours prévisible. C'est la répétition de ces événements qui va marquer le fait qu'on est dans un climat nouveau. Un climat nouveau, ça ne veut pas dire qu'on aura plus d'hiver très froid, un climat plus chaud, ça veut dire qu'on aura moins d'événements froids. On aura au contraire des situations de canicule éventuellement plus nombreuses. Donc c'est une statistique qui va se déplacer progressivement, et c'est très difficile d'interpréter ce qui peut se produire actuellement.
Ces dernières années, dès qu'il fait chaud ou quand il pleut beaucoup, on dit « oh, il n'y a plus de saison, le climat, le temps est perturbé ». Alors voilà, ce serait une réponse à ces questions.
C'est-à-dire que ce qui se produit maintenant, c'est qu'on a effectivement ces prévisions qui nous disent que d'ici la fin du siècle, on devrait aller vers un système assez profondément modifié. Et c'est très naturel, et en fait pour la science, c'est même très précieux comme indication, d'essayer de voir si on est déjà confronté aux premiers effets de ces changements. Alors, dans ce qu'on observe, il y a des éléments qui vont complètement dans le sens de ce qu'on prévoit. Alors, souvent, c'est pas des éléments sensibles. Par exemple, quand on parle de température globale, c'est quelque chose de température moyenne pour la planète, c'est quelque chose qui est insensible pour l'homme de la rue, ou même pour n'importe qui, sans le vecteur d'une mesure. Mais c'est une mesure que l'on fait maintenant et qui nous montre qu'on a cette évolution globale des températures qui va dans le sens de ce qu'on attend. Mais maintenant, on commence à avoir un certain nombre d'indicateurs plus locaux. Les températures augmentent dans chaque région du globe. Sur la France, par exemple, c'est des choses qui sont sensibles maintenant. Et puis après, il y a des événements plus difficiles à interpréter. Alors, Katrina, par exemple, où l'intensité plus grande des cyclones sur le golfe du Mexique, ça ressemble exactement à ce qu'on attendrait dans le cadre d'un changement climatique. Alors peut-être que... L'image que je donne souvent, c'est celle d'un dé. Vous avez un dé dont vous pensez qu'il est pipé. Donc s'il est pipé, le 6 va revenir un petit peu plus souvent. Quand vous le lancez une fois, vous avez un 6, vous ne savez pas dire grand-chose. Mais ça va dans le sens, malgré tout, de ce que vous attendez. Et face à certains événements, comme Katrina, on sait que c'est peut-être le hasard. On verra si les choses se répètent dans le futur ou pas. Mais ça va dans le sens de ce qu'on attend. Même la canicule de 2003, c'est peut-être un événement naturel, exceptionnel. C'est peut-être les prémices de choses qui vont se répéter. Ça va dans le sens de ce qu'on attend. Les tempêtes de 1999, par contre, c'est quelque chose qui est plus difficile à placer dans le cadre de ce qu'on peut attendre en réponse à un changement climatique. Donc ça peut être éventuellement seulement l'effet du hasard. Donc pour chaque événement... On n'est pas capable de le caractériser de manière certaine en fonction des changements climatiques, mais il y a des événements qui vont dans le sens de ce qu'on attend, et il y en a de plus en plus.
En 2100, par exemple, on pourrait planter du blé, avoir des champs de blé en Alaska.
Éventuellement, alors c'est vrai que les changements climatiques peuvent être dans certaines régions et à terme bénéfiques. Maintenant, je crois que ce qui pose problème dans le changement climatique, et c'est difficile à percevoir, et c'est ce qui fait que les réactions des uns ou des autres peuvent être différentes, au-delà du diagnostic, c'est la perturbation en elle-même. C'est-à-dire qu'on vit en fait très bien dans un climat un peu plus chaud, dans un climat un peu plus froid. Il y a des gens partout sur la planète et ils se sont adaptés à leur environnement. Par contre, une perturbation rapide de nos conditions de vie, ça c'est quelque chose auquel on s'adapte difficilement. Et on s'y adapte encore plus difficilement dans un monde qui est un monde concurrentiel. Donc si le changement climatique amène des gagnants et des perdants, c'est quelque chose qui est déstabilisant, et on sait que pratiquement toujours ces déstabilisations sont graves parce qu'elles se combinent à autre chose. Donc je crois que le changement climatique, il est potentiellement grave parce qu'il peut se conjuguer à des situations de rivalité nord-sud, à des situations de tension dans le domaine énergétique ou de la ressource en eau, dans le domaine démographique. Donc c'est l'addition d'une tension forte, non maîtrisée, à d'autres phénomènes de tension.
On marque une seconde pause, Hervé Lautreut, et on se retrouve tout de suite après pour la fin de notre émission. À tout de suite.
Pour la commémoration du 50e anniversaire de la mort de Valérie Larbaud, Michel Déon de l'Académie française est venu à Canal Académie. Et lorsque Michel Déon évoque Valérie Larbaud, on sent tout le plaisir qu'il éprouve à lire et à relire ses écrits. Michel Déon, qui collectionne toutes les éditions des œuvres de l'écrivain, décrit le contenu de la bibliothèque de Larbaud et détaille les qualités littéraires pour lesquelles il apprécie l'auteur de « Jaune, blanc, bleu » et de 200 chambres, 200 salles de bain. Un style limpide, quelqu'un qui nous parle à l'oreille, un homme qui porte attention à la beauté des choses et un polyglotte reconnu. Et le moindre intérêt de l'émission n'est pas d'écouter Déon lui-même s'expliquer sur la lecture, le plaisir de flâner à la recherche d'une édition rare et la quête de la beauté. Cette émission est en libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite et fin de notre émission Éclairage en compagnie d'Hervé Lautreut, qui est membre de l'Académie des sciences dans la section sciences de l'univers et qui est climatologue.
Oui, je pense qu'on peut dire ça.
Climatologue. Alors, on vient de se quitter sur les changements climatiques et avec toutes les conséquences que ça pourra nous apporter dans les centaines d'années à venir, si on se place dans une vision assez élargie. Sur les changements climatiques, est-ce que nous, à l'échelle humaine, Hervé Le Treut, on peut essayer d'atténuer ces changements, ce réchauffement de la Terre? Puisqu'en fait, c'est ça, hein, c'est le réchauffement de la Terre.
Oui, alors on parle de réchauffement et on devrait parler aussi de perturbation du système climatique avec des conséquences qui seront à l'échelle des décennies et puis effectivement des conséquences plus lointaines parce que dans le système climatique, il y a des éléments qui répondent rapidement. Tout ce qui est température, cycle de l'eau, ça répond assez vite aux perturbations du climat. Ce qui est lié aux océans profonds, aux glaciers, donc le relèvement du niveau de la mer en particulier, c'est des choses qui vont réagir avec un petit peu plus de délai. On en sent déjà les effets, mais le système, lui, va évoluer sur probablement des centaines d'années.
C'est la théorie des dominos, en fait. Hein. Il suffit de toucher un élément pour que ça modifie le reste, hein, l'ensemble.
Oui, c'est-à-dire que dans le système climatique, il y a des systèmes à mémoire rapide qui vont réagir tout de suite et puis ils vont à leur tour affecter des systèmes lents pour lesquels il n'y a pas de retour en arrière aussi rapide possible.
Alors nous, à l'échelle humaine, est-ce qu'on se contente d'être spectateur ou est-ce que, par exemple, lors de la ratification du protocole de Kyoto, ça pourrait modifier ou non, ralentir ou non le réchauffement?
Je crois qu'effectivement, on est face à un problème qui imposerait ou impose de prendre des mesures. L'essentiel du problème tourne autour de l'usage de l'énergie. Donc c'est pour ça que c'est un problème difficile puisque l'énergie, chaque fois qu'on brûle du charbon, du pétrole, du gaz naturel, on produit du CO2, qui est le premier des gaz à effet de serre. Les autres gaz à effet de serre sont liés souvent à d'autres types de...
C'est l'élevage aussi, je crois.
Alors, par exemple, l'agriculture est productrice de méthane, l'usage d'engrais à base d'azote aussi génère des gaz à effet de serre. Donc, on a beaucoup d'activités, mais probablement le facteur le plus important, c'est celui de l'énergie. Donc, qui affecte tous les actes de notre vie quotidienne.
Mais alors là, pour le coup, le pétrole, probablement qu'en 2050, en 2100, on en aura quand même beaucoup moins. Donc, sur cette question-là,
en fait,
il ne devrait pas y avoir de souci. Sur le charbon, peut-être, oui.
Oui, en fait, d'abord, le pétrole, on en aura beaucoup moins si on a beaucoup brûlé. Et si on a beaucoup brûlé, on aura les problèmes climatiques. Donc, le fait de dire en 2050, on aura tellement consommé de pétrole qu'il n'y en aura plus, c'est pas une bonne solution parce qu'à ce moment-là, on aura effectivement les conséquences,
les
effets climatiques. On aura plus.
Ils seront un peu décalés. Entre la consommation et les effets.
Et on aura à ce moment-là, justement, moins de moyens de manœuvre pour réagir face aux conséquences. En même temps, on sait qu'avec le charbon, on a des réserves considérables qui, elles, nous portent à un horizon beaucoup plus lointain.
Mais très polluant.
Donc le charbon est très polluant, à la fois en termes de pollution, par exemple, d'acide qui peut être généré en même temps qu'on brûle le charbon, et aussi en termes de CO2, directement en termes de gaz à effet de serre. C'est un produit comparativement plus de gaz à effet de serre que le charbon ou encore plus le gaz naturel. Que le pétrole, pardon, et encore plus le gaz naturel. Donc le problème va se poser, c'est-à-dire qu'on a les moyens de produire des gaz à effet de serre de manière importante si on continue dans notre inflation d'usage de l'énergie telle qu'on l'a connue. Alors ça veut dire qu'il faut effectivement arriver à utiliser le mieux possible l'énergie. Et ça, c'est nos modes de transport. Donc, plus on va vers des transports qui sont des transports publics, partagés, mieux ça vaut. C'est l'usage de l'énergie pour le chauffage des habitations, au contraire comme aujourd'hui la climatisation. Plus on a des constructions qui ne nécessitent pas vraiment, qui sont bien isolées, qui nécessitent peu l'usage de l'énergie, ben plus ça dans le bon sens. Et il y a énormément en fait d'actions qui sont possibles déjà à ce niveau.
Ça contribuerait.
On pourrait effectivement, si on avait un usage parcimonieux, sobre de l'énergie, réduire très fortement les données du problème.
Et après, je pense que c'est tous les problèmes économiques qui suivent derrière, c'est les industries qui
Je sors de mon domaine, mais je pense qu'il y a tous les économistes du développement qui ont travaillé sur ces problèmes disent qu'il y a un seuil à passer au-delà duquel certains types d'activités deviennent rentables et bénéfiques sur le plan environnemental. Donc il faut effectivement des politiques relativement déterminées au sens de la détermination des gens qui la conduisent, mais elles sont possibles. Hein. Il y a une réserve d'actions possibles en termes d'économie d'énergie qui est absolument considérable.
Donc en fait, si on ne veut pas être spectateur, c'est à nous-mêmes de nous prendre en main et d'essayer d'avoir une isolation meilleure, de prendre le transport en commun.
Alors, je crois qu'il y a une activité individuelle qu'on peut avoir, effectivement, chacun de son côté. Je crois qu'elle est de portée limitée si elle n'est pas relayée politiquement. On voit bien que tous ces problèmes-là sont des problèmes d'infrastructure aussi. Et si elle n'est pas relayée politiquement entre les pays industrialisés actuels et puis les pays en voie de développement, parce que le gros problème, c'est un problème nord-sud aussi. C'est-à-dire que l'Inde, la Chine, le Brésil sont les producteurs de gaz à effet de serre les plus importants des décennies à venir. Et ça en volume global, mais par habitant, ils sont encore loin des taux des pays de l'Ouest. Donc il faut, d'une certaine manière, donner l'exemple. On a très peu donné l'exemple jusqu'à présent dans nos autres pays occidentaux. Il faut commencer à le faire vis-à-vis de ces pays-là.
Alors, abordons pour cette dernière partie de l'émission deux instituts, deux organismes dans lesquels vous participez. Tout d'abord, l'Institut Pierre-Simon Laplace, là où vous avez votre laboratoire. Peut-être que vous pourriez nous dire deux mots sur cet institut qui, justement, travaille dans ce domaine-là, la question de l'effet de serre, la couche d'ozone.
Oui, alors l'Institut, c'est en fait une fédération de laboratoires au niveau essentiellement de l'Île-de-France et de la région parisienne, et qui a été créée par Gérard Mégy, qui a été académicien, qui est malheureusement décédé.
Sur lequel, d'ailleurs, nous avons fait une émission, et nous renvoyons nos auditeurs également sur cette émission.
Et ça partait de la prise de conscience, l'étude de cet environnement est nécessairement multidisciplinaire. Donc, pendant des années, on a eu des laboratoires de météorologie, d'océanographie, de chimie de l'atmosphère qui étaient relativement séparés, c'est des objets d'études qui étaient relativement distincts. Et si on veut comprendre comment fonctionne notre environnement, on est obligé de mettre ces disciplines ensemble.
Donc, et là, on l'a vu avec vous tout au long de cette émission, effectivement.
Voilà. Et donc, l'objet de l'Institut, ça a été d'être un lieu où on puisse partager ses connaissances. Donc, on a, au sein de cet institut, créé un groupe de modélisation que j'ai contribué à animer pendant quelques années avec Gérard Mégy, qui a toujours pour but de mettre ensemble atmosphériciens, océanographes, pour décrire le système. Et l'étape suivante, c'est de se placer à l'interface entre science et société. C'est vrai que si on veut traiter ces problèmes-là, on est obligé de prolonger la science par des études qui impliquent des sociologues ou des économistes pour essayer d'aller un petit peu au-delà, pour aborder non seulement la science, mais les conséquences de la science sur nos sociétés.
Au sein de cet institut, vous avez un maximum de matières qui peuvent s'imbriquer les unes dans les autres, finalement.
Voilà, l'idée, c'est de mettre en contact, au total, ça représente 800 scientifiques à peu près sur la région parisienne. Et puis, il y a un jeu de cercle concentrique, c'est aussi des relations avec des disciplines qui ne sont pas présentes stricto sensu dans la fédération, mais c'est une manière d'irradier un petit peu vers d'autres disciplines.
Et vos rapports, vos conclusions servent ensuite au gouvernement ?
Là, il s'agit de sciences fondamentales. Maintenant, ce qui existe comme lien avec les gouvernements, c'est plutôt en fait des choses qui sont instituées au niveau international. Donc il y a le GIEC, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui est un groupe d'expertise. Oui, c'est une phase supplémentaire. C'est-à-dire que là, il y a un désir de faire un diagnostic scientifique. Donc, c'est les scientifiques eux-mêmes qui le font, mais pour le compte du programme environnement des Nations Unies. Et c'est un groupe international.
Dont vous faites partie.
Oui, on est une quinzaine de Français dedans. Mm-hmm. Et dont le but, c'est à certains moments de dire, voilà le diagnostic. Ça, c'est le diagnostic de la communauté scientifique. Et maintenant, face à ça, il faut voir ce qui est possible de faire. Mais de poser le diagnostic à certains moments, pour savoir de quoi on parle, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le problème lui-même.
C'est quand même un grand groupe, il faut le préciser. Il a été créé par l'ONU, ainsi que l'Organisation Météorologique Mondiale, et le programme également, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc ce GIEC, ce groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce n'est pas juste pour dire on a créé quelque chose, c'est quand même bien dans l'idée de faire évoluer les connaissances dans ce domaine.
Oui, tout à fait. Alors, le problème de la communauté scientifique, c'est venu d'une double rencontre entre la communauté scientifique elle-même, qui a voulu s'exprimer sur ces problèmes-là, et puis les grandes tutelles, comme le programme Environnement des Nations Unies ou l'Organisation Météorologique Mondiale, c'est d'arriver à faire un diagnostic qui reflète le mieux possible la science et qu'il soit le moins contestable possible. Donc en s'entourant de garanties. Donc le document, il est relu plusieurs fois par des experts gouvernementaux, il est voté ensuite pour avoir un objet de consensus dont la remise en question soit la plus difficile possible, enfin, qu'il fasse l'objet d'un consensus plus large possible au sein de la communauté scientifique. Parce que c'est des sujets sur lesquels on entend toutes sortes de voix dissonantes et pas toujours informées.
Donc vous êtes là un peu pour tempérer et dire, voilà, rétablir la vérité, quand il y a une vérité à établir.
Voilà, donc il n'y a pas consensus sur tous les éléments, on ne sait pas tout. Il y a beaucoup d'incertitudes encore dans ces domaines. On n'est pas là non plus pour donner les solutions. C'est le domaine des citoyens, du domaine de la sphère du politique. Mais par contre, le diagnostic, et de ce point de vue-là, c'est un rôle qui est un peu analogue au rôle des académies également, qui sont exprimés sur ces problèmes.
Ce groupe intergouvernemental, comme son nom l'indique, sert à plusieurs pays. Ce n'est pas que les États-Unis ou que l'Europe, c'est vraiment tout un ensemble.
Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un relais par les académies des différentes nations du G8, par exemple, qui sont exprimées aussi à ce niveau-là.
Et nous renvoyons également nos éditeurs, puisque nous avons réalisé une émission sur ce sujet, sur la déclaration commune des académies.
L'idée, c'est que la communauté scientifique se prononce en tant que telle, dans les limites de ce qu'elle sait dire, c'est-à-dire sans aller jusqu'à confisquer le débat politique ou citoyen autour de ces problèmes-là, mais en posant les problèmes de manière le plus précise possible.
Eh bien, merci Hervé Letreux de nous avoir accordé autant de temps pour cette émission, qui se termine donc ici. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes climatologue et vous travaillez sur la modélisation du climat et également sur les aspects, les conséquences des gaz à effet de serre.
Voilà, donc le laboratoire, lui, a aussi une composante d'observation de la planète qui est très, à laquelle je participais personnellement de manière moins directe, mais qui est aussi tout à fait essentielle par rapport au problème qu'on entend parler.
Eh bien, merci beaucoup. Et une prochaine fois, je l'espère. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.
Merci.